Chapitre 16. Cal Noonan aimait les arbres. Il admirait leur beauté élancée, appréciait leur ombre profonde, et en un jour comme celui-ci, les respectait pour la couverture stratégique qu'ils offraient. Quand on prend en chasse un fugitif armé, il ne fait jamais de mal d'en être séparé par autant d'arbres que possible. L'approche de la première habitation n'en était que plus éprouvante pour leurs nerfs. Une petite maison blanche, tout au bout d'un chemin de terre. Le terrain avait été déboisé des décennies, sinon des générations plus tôt, de sorte qu'un vaste espace à découvert s'étendait entre l'équipe de Cal et la porte d'entrée. D'ailleurs, ce n'était même pas la maison qui intéressait le plus le pisteur. Il avait repéré une empreinte de chaussure au bord de la route, vers le côté gauche de la propriété, où Cal apercevait une baraque toute branlante. Le genre de remise où le propriétaire pouvait garer une voiture mangée par la rouille, un vieux tracteur ou, dans la région, un quad. Si Cal avait été un jeune fuyard de 17 ans, il aurait voulu un quad. Antonio prit la tête de la colonne, suivi de Cal et Noni, Jess fermant la marche. Ils avançaient le dos bien droit, restant le plus possible à l'ombre des broussailles qui bordaient la propriété. Une progression lente et régulière, fusil en main, à l'affût du moindre mouvement. Sauf Cal, qui cherchait sur le sol devant Antonio de nouvelles traces de passage. Si bien qu'il ne vit pas venir le premier coup de feu. Il était en train d'inspecter un pan de pelouse particulièrement piétiné quand soudain, un coup de fusil claqua, net et précis. Antonio poussa un juron. Cal et Noni se jetèrent à terre. Puis Jess, à plat ventre, fusil devant lui, rampa jusqu'à eux en demandant « Vous êtes blessé? Qu'avez-vous vu ?» Antonio réclamait déjà des renforts par radio. Cal se promit que si par bonheur il s'en sortait, il s'en tiendrait à fabriquer du fromage jusqu'à la fin de ses jours. Deuxième coup de fusil, en provenance de la maison, jugea Cal. Après quoi, alors qu'une troisième balle déchiquetait le buisson au-dessus de sa tête, il aperçut le miroitement d'un fusil à une fenêtre de l'étage. « Police ! Cessez le feu !» cria Antonio accroupi tout en communiquant par geste avec Jess. Son collègue hocha la tête et en trois rapides roulés-boulés prit position à l'abri d'un rhododendron. « Vous êtes sur une propriété privée !» dit une voix râpeuse de vieil homme. « Sortez de chez moi ! Rien à voir ! Rien à voler ! Oust ! Monsieur, c'est la police ! Nous sommes à la poursuite d'un fugitif armé ! Posez votre arme ! Ne tirez plus !» « Si vous voulez mon arme, il faudra l'arracher des mains de mon cadavre !»
rétorqua le maître des lieux.
Cal baissa la tête. Il allait mourir à cause d'un vieillard paranoïaque. La bonne blague.
« Monsieur !»
lança Cal, tentant à son tour sa chance, quitte à s'attirer un regard noir d'Antonio.
« Nous sommes sur la piste d'un jeune homme de 17 ans. Il a tué une caissière et un client à la station EZ Gaz à 2 kilomètres d'ici. Vous avez peut-être vu ça aux informations. »
« Il y a eu des meurtres à la station-service ?»«
Voilà. Je dois retrouver le coupable. Nous avons des raisons de penser qu'il est passé par chez vous. »«
Le jeune qui s'est introduit dans ma remise, vous voulez dire ?»« Vous bilez pas, je lui ai tiré dessus aussi. »« Voyou, il s'imaginait qu'il pouvait se servir comme ça. »«
Est-ce qu'il est toujours dans la remise ?»« C'est important, il est lourdement armé et considéré comme dangereux. »«
Pensez-vous ?» Deux coups de fusil et il est reparti à travers les fourrés. Il doit être en train de dévaliser la maison de la voisine à l'heure qu'il est. Pas qu'elle ait quoi que ce soit à voler, d'ailleurs.
Monsieur, je vais me relever. Ce serait bien aimable à vous de ne pas me tirer dessus. Dans la vraie vie, je suis responsable de production à l'usine de fromage, alors si vous comptez remanger un jour du cheddar...
Avec beaucoup de prudence, Cal ramena une jambe sous lui, puis la seconde. Il se redressa. Antonio tenait toujours la fenêtre de l'étage en joue pour le couvrir. Cal leva les mains en l'air.
« Il faut qu'on retrouve ce tireur, avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Vous dites qu'il est entré dans votre remise. »«
Ouais, jusqu'à ce que je balance quelques pruneaux en direction de son arrière-train. »«
Vous l'avez touché ?»«
Non. J'ai visé largement au-dessus de la tête, comme avec vous. »
Sa voix était descendue de plusieurs tons. De celui de la confrontation à celui de la conversation.
Il faut qu'on fouille votre remise, au cas où il y aurait des indices, pour continuer à suivre sa trace. C'est important.
Qui l'a tué à la station-service ?
La caissière, une fille du coin.
Erin ?
Il a tué Erin ? Nom de... Petit salopard, j'aurais dû le descendre quand j'en avais l'occasion. Bon, j'arrive, je vous retrouve à la remise.
Le fusil disparut de la fenêtre. Accroupi devant Cal, Antonio secoua la tête et se releva au ralenti.
Il y a des gens et il y a des jours.
Ouais, et cette journée ne fait que commencer. Cal et Noni furent les premiers à s'approcher de la remise. Antonio et Jess se positionnèrent entre les pisteurs et la porte du papy flingueur. Ils tenaient leurs fusils devant eux avec des contractions, toujours prêts à tirer mais donnant des gages de confiance. Cal repéra deux nouveaux creux, traces de pas dans des zones où le terrain était plus meuble, et ils arrivèrent à la remise. À peu près de taille à abriter une voiture, c'était une baraque poussiéreuse et délabrée. La porte de côté, entrebâillée, laissait deviner l'intérieur, noir et crasseux. Il manquait des carreaux aux deux fenêtres latérales à travers lesquelles les rayons du soleil brûlant éclairaient les volutes de poussière soulevées par un récent passage. Un grincement venu de la maison derrière lui. Cal se retourna et vit un vieux monsieur, en jean, t-shirt blanc et bretelles rouges, descendre péniblement le perron. Au moins avait-il laissé son arme à l'intérieur.
« Jack !»
se présenta-t-il en s'approchant de leur petit groupe.
« Jack George. Ici, c'est chez moi. Et voilà ma remise. Qu'avez-vous besoin de voir pour retrouver la petite ordure ?»
À la requête de Cal, M. George les autorisa à ouvrir la grande porte pour laisser entrer davantage de lumière. Cal vit alors encore plus de traces de passage dans la poussière. Des empreintes fraîches sur un large établi où leur suspect avait cherché son chemin à tâtons, peut-être en quête d'objets susceptibles de lui être utiles, ou même d'une autre arme. La remise contenait un assortiment d'outils de jardinage et d'outils électriques, ainsi qu'un tracteur de tonte relativement neuf et embaumant l'herbe coupée. Mais le plus intéressant se trouvait au fond. Un quad, tendu de toile d'araignée, deux pneus à plat.
« Je l'avais acheté pour mes petits-enfants », expliqua M. George. « Je pensais que ça les amuserait de faire les fous avec ce bolide dans la propriété. Mais ça fait un moment qu'ils ne sont pas venus. Sûr qu'il faudrait regonfler les pneus et probablement changer le carburant, mais ils marchent. Si je n'avais pas vu l'autre voyou rôder devant la remise, il l'aurait volé, c'est certain. »
Cal hocha la tête. Il distinguait clairement des empreintes de pas à côté du quad, à l'endroit où leur cible avait pris le temps d'évaluer la situation. Dans la mesure où ce véhicule était garé dans l'obscurité du fond de la remise et non visible par les fenêtres, Cal avait quelques doutes sur la théorie de M. George. Leur meurtrier présumé était bel et bien entré dans la remise. Selon toute probabilité, les pneus à plat et le réservoir piqué de rouille l'avaient convaincu de renoncer au quad. À ce moment-là, à lire les empreintes sur le sol poussiéreux, il était ressorti par la porte de côté. Et c'est alors que M. George avait finalement repéré l'intrus et ouvert le feu. À sa sortie, et non avant qu'il entre. Ensuite, une fois les premiers coups de feu tirés, Cal sortit de la remise et reprit son examen de la pelouse. Apparemment, le suspect avait déguerpi vers l'arrière de la remise. Les empreintes, plus profondes, plus espacées, indiquaient qu'il courait, la tête certainement rentrée dans les épaules pour esquiver les balles. Derrière la bâtisse, Cal découvrit deux empreintes plus légères, côte à côte. L'individu s'était arrêté pour reprendre son souffle et trouver la meilleure porte de sortie. Précisément, face à l'arrière de la remise, une épaisse haie présentait une brèche étroite à l'endroit où l'un des buissons était mort sans être remplacé. Cal et les commandos du SWAT auraient eu du mal à se faufiler par là, mais un gamin de 17 ans, maigre et nerveux... Cal s'approcha et examina la brèche. Il repéra plusieurs brindilles cassées, le bois vert encore visible, et des feuilles fraîchement tombées. Il fit signe à son équipe de lui accorder un instant pendant qu'il interrogeait de nouveau M. George. « Votre voisine, de l'autre côté, elle aime autant que vous les armes à feu ?»«
Aurora ? Non, je ne pense même pas qu'elle soit chez elle. Un de ses enfants est venu la chercher l'autre jour pour l'emmener chez eux à Portland. Elle n'a pas la climatisation et supporte très mal les grosses chaleurs. Donc il se pourrait très bien que sa maison soit vide.
C'est ça. »
Cal se tourna vers Antonio.
« À quelle heure avez-vous vu le suspect ?» demanda celui-ci à M. George. « Voyons voir, je regardais le journal du matin, donc il y a bien 5 ou 6 heures de temps. »
Cal confirma. Comme la fusillade de la station-service avait eu lieu à 8 heures et qu'il était maintenant presque 14 heures,
Il était acquis que Telly Reinach possédait une bonne longueur d'avance. Mais au vu de la piste, le fugitif était aussi contraint de prendre des décisions au fur et à mesure. Par exemple, tourner à droite vers le lotissement résidentiel, s'approcher furtivement de la première maison et explorer les possibilités qui s'offraient à lui dans la remise avant de devoir fuir les lieux. Telly progressait plus vite qu'eux, mais il devait aussi prendre le temps de réfléchir. Et la maison vide de la voisine avait dû représenter une nouvelle cible tentante. Peut-être même un refuge où se terrer et se reposer. Avec un peu de veine, dit Cal à Antonio, le gamin a essayé d'entrer par effraction chez la voisine. Pour y trouver de l'eau, de la nourriture, du matériel, c'est peut-être notre première occasion de regagner du terrain. Antonio se tourna vers M. George. Monsieur, est-il possible de voir chez votre voisine depuis les fenêtres de votre étage ?
Dites donc, qu'est-ce que vous insinuez ?
Simple repérage, monsieur. J'aimerais voir s'il y a du mouvement chez votre voisine avant qu'on se pointe à sa porte la bouche en cœur.
Oh, dans ce cas.
Oui.
Maintenant que vous le dites, depuis la fenêtre de la salle de bain.
Antonio suivit M. George vers la maison. Cal reprit son examen de la brèche. Eux-mêmes ne traverseraient pas à cet endroit, ce qui aurait détruit des indices. Non, ils feraient tout le tour et retrouveraient la piste de l'autre côté de la haie. Nonny et lui disposèrent de nouveaux fanions orange pour les techniciens qui passeraient après eux. 10 minutes plus tard, Antonio ressortait de la maison.
Aucun signe d'activité. J'ai donné notre position par radio. L'hélico arrive pour un passage aérien au-dessus du secteur.
Bien, on progresse. La file indienne se reforma et, quittant la propriété de M. George, ils reprirent le chemin de terre ombragé pour faire le tour de la haie. La maison de la voisine était une charmante demeure de style Cape Cod, à bonne distance du chemin. Cal entra le premier dans la propriété. Un nouveau coup de feu retentit. Pas en provenance de la maison de M. George sur leur gauche, ni de la mignonne maison de la voisine sur leur droite. Cela venait de derrière eux, de l'autre côté du chemin. Cal en était encore à se retourner, encore à réaliser à quel point il s'était fourvoyé, à quel point il s'était fait balader, quand Antonio s'effondra dans une giclée rouge, quand Nonny poussa un hurlement. Tandis qu'au loin, une carabine les canardait encore et encore et encore.